En supposant donc qu'il y ait 400 000 enfants dans cette condition, ce qui est un plus grand nombre qu'on ne devrait supposer après les provisions déjà faites, la méthode sera d'accorder à chacun de ces enfants 10 shelins par an pour la dépense de l'école pendant 6 ans, ce qui leur procurerait 6 mois d'école par an avec un petit écu annuellement pour acheter du papier et des livres à épeler. Cette dépense montera annuellement à 250 000 livres. Il restera donc 200 000 livres. Malgré les grands systèmes de secours que les gouvernements les mieux institués et les plus sages pourront inventer, il y aura toujours une infinité de petites circonstances, et qu'il est de la politique et de la bienfaisance d'une nation de considérer. Si on donnait immédiatement un louis après la naissance d'un enfant à toute femme qui le ferait demander, et personne ne le ferait demander à moins qu'il n'en eût besoin, cela pourrait prévenir beaucoup de misère. Il n'y a en Angleterre que 200 000 naissances par an. Et si ce louis était réclamé par le quart des mères, le montant serait de 50 000 livres. Un louis également à tout couple nouvellement marié qui le demanderait, cela n'excéderait pas la somme de 28 000 livres. On devrait aussi approprier 20 000 livres sterling pour défrayer les funérailles de personnes qui, en voyageant pour chercher du travail, mourraient éloignées de leurs parents et de leurs amis. En ôtant cette charge aux paroisses, l'étranger malade serait mieux traité. Je vais terminer cette partie du sujet par un plan propre à la situation d'une métropole telle que Londres. Il arrive continuellement des événements dans une capitale différents de ceux qui arrivent dans les provinces, et pour lesquels il faut une méthode différente, ou plutôt additionnelle, de secours. Dans les provinces, même dans les grandes villes, les gens se connaissent les uns les autres et la misère ne parvient jamais aux extrémités où on la voit quelquefois dans une capitale. On n'entend jamais parler dans les provinces de pauvres qui meurent de faim, littéralement parlant, faute de logement. Cependant, il arrive des choses de cette nature et d'autres aussi malheureuses dans Londres. Plusieurs jeunes gens viennent à Londres, pleins d'espérance, avec peu ou point d'argent, et à moins qu'ils ne trouvent immédiatement de l'emploi, ils sont déjà à moitié perdus. Les enfants élevés à Londres sans moyens de subsistance, et comme cela arrive souvent de parents débauchés, sont dans un état encore pire. Les domestiques, qui sont longtemps sans place, ne sont guère mieux. En un mot, il survient continuellement une infinité de petites circonstances, inconnues à l'opulence, pour ouvrir la première porte à la détresse. La faim n'est pas un besoin qu'on puisse retarder à satisfaire. Et un jour, même quelques heures, dans une pareille situation, sont souvent la crise d'une vie malheureuse. On pourrait prévenir ces circonstances qui sont les causes générales des petits vols et des petits larcins qui conduisent à de plus grands. Il reste encore 20 000 livres des 4 millions de surplus de l'impôt qui, joints à un autre fonds dont nous parlerons par la suite, montant à environ 20 000 livres de plus, ne sauraient être mieux employés qu'à cet objet. Le plan sera donc, premièrement, d'élever deux maisons ou plus, ou d'en prendre de toutes bâties, capables de contenir au moins 6 000 personnes, et d'avoir dans chacune de ces maisons autant de genres de travaux qu'il est possible, de sorte que tous ceux qui y viendront puissent trouver quelque chose qu'ils sont en état de faire. Secondement, d'y recevoir tous ceux qui s'y présenteront sans s'informer qui ils sont. La seule condition qu'on pourrait leur proposer serait que pour tant d'ouvrages ou pour tant d'heures de travail, chaque personne aurait tant de repas de bonne nourriture et un logement bien chaud, au moins aussi bon que celui d'une caserne. Qu'une certaine portion du prix de leurs ouvrages serait mise de côté et qu'on la leur donnerait lorsqu'ils s'en iraient. Et que chacun resterait aussi peu ou aussi longtemps qu'il lui plairait ou viendrait quand il jugerait à propos aux mêmes conditions. Si chaque personne restait 3 mois, ce système soulagerait par rotation 24 000 âmes par an, quoiqu'effectivement il n'y en eût dans tous les sens que 6 000. En établissant un asile de ce genre, les personnes à qui il arrive des malheurs momentanés auraient une occasion de se refaire et de se mettre en état de chercher un emploi plus avantageux. En supposant que leur travail ne paye que la moitié de la dépense de leur entretien, après avoir réservé une portion de leur gain pour eux, la somme additionnelle de 40 000 livres défrayerait toutes les autres charges, même pour un nombre au-dessus de 6 000. les fonds que l'on pourrait fort à propos appliquer à cet objet, pour joindre aux 20 000 livres sterling restants des premiers fonds, serait le produit des taxes sur le charbon si injustement appliquées au soutien du duc de Richemont. Il est affreux qu'aucun homme, surtout au prix où est actuellement le charbon, vive de la détresse d'une communauté, et tout gouvernement qui permet un pareil abus mérite d'être congédié. On dit que ces fonds montent à environ 20 000 livres par an. Je conclurai ce plan en faisant l'énumération des différentes particularités, et je passerai ensuite à un autre sujet. L'énumération est comme suit. D'abord, l'abolition de 2 millions de taxes pour les pauvres. Secondement, des provisions pour 252 000 pauvres familles. Troisièmement, l'éducation d'un 1 030 000 enfants. Quatrièmement, des provisions consolantes pour 140 000 personnes âgées. Cinquièmement, un don de 20 chelins chacune pour 50 000 naissances. Sixièmement, un don de 20 chelins chacun pour 20 000 mariages. Septièmement, un dépôt de 20 000 livres pour les obsèques des personnes en voyage pour chercher du travail et qui meurent éloignées de leurs parents. Huitièmement, de l'emploi dans tous les temps pour les pauvres accidentels des villes de Londres et Westminster. Par le moyen de ce plan, les lois sur les pauvres, ces instruments de la question civile, seront abolies et les dépenses inutiles des procès à ce sujet prévenues. Les yeux de l'humanité ne seront plus choqués de la vue d'enfants déguenillés et affamés et de vieillards de 70 ou 80 ans mendiant leur pain. Le pauvre mourant ne sera plus traîné de place en place pour pousser le dernier soupir, comme si une paroisse voulait user de représailles sur une autre. Les veuves trouveront une subsistance pour leurs enfants et ne seront plus transportées sur des chariots, après la mort de leur mari, comme des criminels, et les enfants ne seront plus considérés comme augmentant la détresse de leurs parents. Les retraites des malheureux seront connues, parce que ce sera leur intérêt, et le nombre des petits crimes, enfants de la détresse et de la pauvreté, sera diminué. Le pauvre comme le riche sera alors intéressé au soutien du gouvernement, et la cause et les craintes des tumultes et des insurrections cessera. Ô vous qui êtes à votre aise, qui jouissez de l'abondance! Et il y a des êtres semblables en Turquie et en Russie, comme en Angleterre, et qui vous dites à vous-même, « Ne sommes-nous pas bien ? » Avez-vous pensé à toutes ces choses ? Quand vous le ferez, vous cesserez de ne parler et de ne sentir que pour vous seul. Le plan est aisé à mettre en pratique. Il n'embarrasse pas le commerce par une interruption soudaine dans l'ordre des impôts, mais il soulage en changeant son application. Et l'argent nécessaire à cet objet peut se tirer du produit de l'accise qui se perçoit 8 fois par an dans toutes les villes d'Angleterre où il y a marché. Ayant donc arrangé et terminé ce sujet, je passe à un autre. En estimant les dépenses courantes à 7,5 millions par an, ce qui est les mettre au taux le plus bas, il restera, déduction faite d'1,5 million pour les dépenses courantes et de 4 millions pour le service ci-dessus mentionné, la somme de 2 millions dont on pourra employer une partie comme suit. Quoique les flottes et les armées, par le moyen d'une alliance avec la France, puissent devenir en quelque sorte inutiles, cependant, il ne faut pas que les hommes qui se sont dévoués à ce service, et se sont par là rendus incapables d'autres fonctions, souffrent des moyens qui servent à rendre les autres heureux. Il restera sur pied, au moins pour quelques années, une partie de l'armée ainsi que de la marine, pour laquelle on a déjà pourvu dans la première partie de ce plan 1 million sterling. Ce qui fait presque 500 000 de plus que l'établissement de paix de l'armée et de la marine sous le règne prodigue de Charles II. En supposant donc qu'il y ait 15 000 soldats de réformés et en accordant à chacun de ces soldats 3 shillings par semaine, sa vie durante, sans aucune déduction, qui leur serait payé de la même manière qu'on les paie à l'hôpital de Chelsea, avec la permission de retourner chez eux, et en ajoutant 7 500 chelins, par semaine aux soldats qui resteraient, la dépense annuelle serait, pour la paye de 15 000 soldats réformés à 3 chelins par semaine, 117 000 livres. Paye additionnelle aux soldats qui restent, 19 500. En supposant que la paye des officiers des corps réformés monte à une somme égale à celle accordée aux soldats, 117 000. Total, 253 500 livres. Pour ne point faire monter les estimations trop haut, supposer la même somme pour les marins congédiés que pour l'armée, la même augmentation de paye, 253 500. Total 507 000 livres. Tous les ans, une partie de ce demi-million, je laisse les 7 000 livres de surplus pour que le compte soit plus clair, reviendra à la nation, et avec le temps, la totalité, puisqu'il est payé en rente viagère, excepté l'augmentation de paye de 29 000 livres. À mesure qu'il rentrera, on pourra ôter une partie des taxes. Par exemple, lorsqu'il y aura pour 30 000 livres par an de ces rentes déteintes, on pourra entièrement ôter les droits sur le houblon. Et à mesure que les autres s'éteindront, diminuer les droits sur la chandelle et sur le savon jusqu'à ce qu'ils cessent totalement. Il reste encore au moins 1,5 million de surplus de l'impôt. L'impôt sur les maisons et sur les fenêtres est un de ces impôts directs qui, comme les taxes des pauvres, n'est pas confondu avec le commerce. Et quand on l'abolira, on sentira sur le champ du soulagement. Cette taxe porte particulièrement sur la classe mitoyenne de la nation. Le montant de cet impôt en 1788 était, maisons et fenêtres, par l'acte de 1766, 385 459 livres, 11 shillings 7 pence. Ditto, par l'acte de 1779, 130 739 livres, 14 shillings, 1 demi pence. Total, 516 199 livres, 6 shillings, 1 demi pence. Si cette taxe est abolie, il restera encore environ 1 million de taxes, et comme il est toujours à propos d'avoir une somme en réserve pour les accidents qui peuvent arriver, il vaudra mieux ne pas étendre les réformes plus loin, en premier lieu, mais examiner ce que l'on peut faire par d'autres moyens de réforme. Parmi les taxes qui pèsent le plus sur le peuple est la taxe commuée. Je vais donc offrir un plan pour son abolition, en substituant un autre à sa place, qui remplira trois objets à la fois. Premièrement, celui de faire porter le fardeau à ceux qui en sont le plus en état. Secondement, en rétablissant la justice dans les familles par une distribution de propriété. Troisièmement, en extirpant l'influence immense qui provient du droit barbare d'Aînès et qui est une des principales sources de corruption aux élections. Le montant de la taxe commuée selon les registres de 1788 était de 771 757 livres. Quand on propose des impôts, on amuse la nation par le langage plausible de taxer le luxe. Dans un temps, on appelle une chose un objet de luxe, et dans un autre, c'est autre chose. Mais le luxe réel ne gît pas dans l'article, mais dans les moyens de se le procurer, et on tient toujours cela hors de la vue du peuple. Je ne vois pas pourquoi une plante ou une herbe qui croît dans les champs est un plus grand luxe dans un pays que dans un autre. Mais un bien immense dans l'un ou dans l'autre est dans tous les temps un luxe, et comme tel, est un excellent objet d'impôt. C'est pourquoi il est juste de prendre au mot ces honnêtes metteurs d'impôts et d'argumenter, selon le principe qu'ils ont eux-mêmes posé, celui de taxer les objets de luxe. Si eux ou M. Burke, qui je crains commence à se passer comme l'homme en armure, peuvent prouver qu'un bien de 20, 30 ou 40 000 livres de rente n'est pas un luxe, j'abandonne l'argument. En admettant qu'il faille annuellement une certaine somme, par exemple de 1000 livres sterling pour l'entretien d'une famille, les secondes autres 1000 livres sont donc de la nature d'un luxe. Les troisièmes encore plus, et en continuant ainsi, nous parviendrons progressivement à une somme que l'on pourrait fort convenablement appeler un luxe prohibé. Il ne serait pas politique de mettre des bornes aux propriétés acquises par l'industrie. C'est pourquoi il est juste de placer la prohibition au-delà de toutes les probabilités de richesse auxquelles l'industrie peut parvenir. Mais il devrait y avoir des bornes aux propriétés ou à l'accumulation des propriétés léguées par testament. Elles devraient passer dans une autre ligne. Les plus riches dans toutes les nations ont de pauvres parents qui leur sont souvent alliés de très près. Le tableau suivant d'un impôt progressif est fait sur le principe dont je viens de parler, et pour servir de substitut à l'impôt commué. Il atteindra le point de prohibition par une opération régulière et fera cesser par là le droit aristocratique d'Aînès. Ce tableau montre la progression par livre sur chaque 1000 livres. Le tableau suivant montre le montant de l'impôt sur chaque 1000 livres séparément. Au 23e mille, la taxe monte à 20 chelins par livre. Conséquemment, tout autre mille au-dessus de cette somme ne saurait produire aucun profit qu'en divisant le bien. Cependant, quelque terrible que paraisse cette taxe, elle ne produira pas, je crois, autant que la taxe commuée. Si elle donnait davantage, il faudrait la réduire à ce taux en faisant des diminutions sur les biens au-dessous de 2 ou 3 000 livres de rente. Sur les petits biens et sur les biens modérés, elle est plus légère, comme cela se doit, que la taxe commuée. Ce n'est que sur les biens de 7 ou 8 000 livres de rente qu'elle commence à se faire sentir. L'objet n'est pas tant le produit de la taxe que la justice de cette mesure. L'aristocratie s'est trop mise à couvert, et cela sert à rétablir une partie de l'équilibre. Pour faire voir comment l'aristocratie s'est toujours mise à couvert, il ne faut que remonter au premier établissement des droits d'accise, au temps que l'on appelle la Restauration ou au retour de Charles II. L'aristocratie, alors en pouvoir, commua le service féodal qu'elle était obligée de rendre en un impôt sur la bière brassée pour vendre. C'est-à-dire, elle composa avec Charles pour être exempte de ce service, elle et ses héritiers, en accordant une taxe qui devait être payée par une autre classe d'hommes. L'aristocratie n'achète pas la bière brassée pour vendre, mais brasse sa propre bière sans être assujettie à ce droit. Et s'il était nécessaire dans ce temps-là de faire un échange, ce devait être aux dépens de ceux qui avaient dessein de s'exempter de ce service. Au lieu que la taxe fût jetée sur une classe d'hommes tout à fait différente. Mais le principal objet de cet impôt progressif, outre la justice de répartir les impôts plus également qu'ils ne le sont, est, comme on l'a déjà dit, d'extirper l'influence colossale provenant du droit d'aînesse, qui est une des principales sources de la corruption dans les élections. Il ne servirait de rien de faire des recherches sur l'origine de ces vastes fortunes de 30, 40 ou 50 000 livres sterling de rente, et cela dans un temps où le commerce et les manufactures n'étaient pas dans un état à admettre de pareilles acquisitions. Contentons-nous de remédier au mal en les rendant susceptibles de descendre de nouveau dans la communauté par le moyen paisible et tranquille de les diviser entre les héritiers et héritières de ces familles. Cela sera d'autant plus nécessaire que jusqu'ici l'aristocratie a entretenu ses cadets et ses parents aux dépens du public, dans des postes et dans des places inutiles, dont l'abolition les laissera sans provision, à moins qu'on abolisse aussi le droit d'aînesse ou qu'on ne l'égalise de manière ou d'autre. Un impôt progressif accomplira en quelque sorte cet objet, et cela comme une affaire d'intérêt pour les parties les plus intéressées. On peut le voir par le tableau suivant, qui montre le produit net sur chaque revenu, après en avoir soustrait l'impôt. Il paraîtra par là que lorsqu'un bien excède 13 ou 14 000 livres de rente, le reste ne rapporte guère de profit au propriétaire et conséquemment passera aux cadets ou aux autres parents. Selon ce tableau, un bien ne saurait rapporter plus de 12 370 livres sans être absorbé par l'impôt territorial et l'impôt progressif. C'est pourquoi il faudra nécessairement diviser ces biens comme un cas d'intérêt de famille. Un bien de 23 000 livres de rente, divisé en 5 portions de 5 000 livres de rente chacune, et une de 3, ne payera que 1129 livres, ce qui n'est que 5%, au lieu que s'il était entre les mains d'un seul homme, il serait imposé à 10 630 livres. Quoique les recherches dans l'origine de ces biens soient inutiles, leur continuation dans les mêmes mains est une affaire d'un autre genre. C'est une chose d'un intérêt national. C'est la loi qui les a rendus biens héréditaires et conséquemment qui a fait le mal, et elle doit pourvoir au remède. Le droit d'aînesse doit être aboli non seulement parce qu'il est contre nature et injuste, mais parce que le pays souffre de ses effets. En privant, comme nous l'avons observé, les cadets de leur portion d'héritage, le public est obligé de les entretenir. Et la liberté des élections est violée par l'influence colossale que cet injuste monopole de patrimoine produit. Ce n'est pas encore tout. Il occasionne une perte de propriété nationale. Une partie considérable des terres du pays, demeurées incultes par la grande étendue de parcs et de chasses que ce droit sert à entretenir, et cela dans un temps où les récoltes de grains ne peuvent pas suffire aux besoins de la nation. En un mot, les maux du système aristocratique sont si grands et si nombreux, si contraires à tout ce qui est juste, sage, naturel et bienfaisant, que lorsqu'on les aura bien considérés, il n'y a pas de doute que même plusieurs personnes que l'on appelle aristocrates ne désirent de voir un pareil système aboli. Quel plaisir pourraient-elles avoir à contempler la situation précaire et la misère presque assurée de leurs enfants cadets? Chaque famille aristocrate a un apanage de pauvres de famille qui sont à sa charge, dont elle se débarrasse dans quelques siècles ou après quelques générations, et qui n'ont plus d'autres ressources que d'aller raconter leur histoire dans les maisons de charité, de force ou dans les prisons. C'est une des conséquences naturelles de l'aristocratie. Le père et le mendiant sont souvent de la même famille. Un extrême en produit un autre. Pour faire un homme riche, il faut en faire plusieurs pauvres. Ce système ne saurait se soutenir par aucun autre moyen. Il y a deux espèces d'êtres auxquelles les lois d'Angleterre sont particulièrement contraires, et ces êtres-là sont les plus dépourvus, les jeunes enfants et les pauvres. Je viens de parler des premiers. Des différents exemples que l'on pourrait produire de ces derniers, je vais en citer un, avec lequel je vais conclure ce sujet. Il existe plusieurs lois pour limiter et régler le salaire des ouvriers. Pourquoi ne pas leur laisser autant de liberté de faire leur propre marché que le sont les législateurs de louer leurs fermes et leurs maisons? Leur travail est la seule propriété qu'ils possèdent. Pourquoi envahir cette petite possession et le peu de liberté dont ils jouissent? Mais l'injustice paraîtra plus grande encore si nous considérons les effets et l'opération de pareilles lois. Quand le salaire est fixé par la loi, le salaire légal reste dans la même situation, tandis que toutes les autres choses font des progrès. Et comme ceux qui font cette loi continuent toujours, par d'autres lois, d'augmenter les impôts, ils augmentent les dépenses de la vie par une loi et ôtent par une autre les moyens de vivre. Mais si ces messieurs les faiseurs de lois ou les metteurs de taxes ont trouvé juste de borner la misérable pitance qu'un travail personnel peut produire et sur laquelle toute une famille est forcée de vivre, ils doivent sûrement se trouver bien heureux qu'on les fixe au moins à 12 000 livres de rente, à toucher sur une propriété qu'ils n'ont jamais acquise, ni probablement leurs ancêtres non plus, et dont ils ont fait un si mauvais usage. Ayant terminé ce sujet, je vais en mettre les différentes particularités sous un point de vue et passer à un autre. 1. Abolition de 2 millions de taxes des pauvres. 2. Provision pour 252 000 pauvres familles à 4 livres par tête pour chaque enfant au-dessous de 14 ans. Celui qui, avec une addition de 250 000 livres, pourvoit aussi à l'éducation d'1 030 000 enfants. 3. Rente viagère de 6 livres pour chaque pauvre personne, artisan, marchand ruiné ou autre, au nombre de 70 000, depuis 50 ans jusqu'à l'âge de 60. 4. Annuité ou rente viagère de 10 livres pour les pauvres personnes, artisans ruinés et autres, au nombre de 70 000, depuis 60 ans et au-dessus. 5. Donation de 20 chelins chacune pour 50 000 femmes en couche. 6. Donation de 20 chelins par couple marié pour 20 000 mariages. 7. Dépôt de 20 000 livres pour servir aux funérailles des personnes qui, cherchant de l'occupation, meurent éloignées de leurs parents. 8. Emploi dans tous les temps pour les pauvres accidentels de Londres et de Westminster. 9. Abolition de la taxe sur les fenêtres et sur les maisons. 10. Pension de 3 chelins par semaine, leur vie durante, à 15 000 soldats réformés et même pension aux officiers des corps réformés. 11. Augmentation de paye pour le reste des soldats de 19 500 livres annuellement. 12. Même pension aux marins congédiés et même augmentation de paye aux marins en activité qu'à l'armée de terre. 13. Abolition de la taxe commuée. 14. Plan d'un impôt progressif qui tend à extirper le droit contre nature d'aînesse et l'influence vicieuse du système aristocratique. Il reste encore, comme nous l'avons déjà fait voir, 1 000 000 du produit des impôts. Il en faudra une partie pour les cas imprévus, et ce dont on n'aura pas besoin servira à réduire les taxes en raison de la somme.